les parts actualités.
Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois les paractualités ce matin, en ce mardi 25 octobre 2016. Aujourd'hui, la CAQ et la FADOC réclament une meilleure nutrition pour les aînés en CHSLD. Et puis aussi, nous allons recevoir quelqu'un qui est une grande voyageuse. Elle est d'origine française. Elle voyage énormément. Elle va nous raconter ça. Elle va nous faire bouger un peu et c'est très bien. Également à l'émission Autonomie dans les déplacements, justement, tiens, et Audrey que je reçois, cette voyageuse pourra nous en parler. La 15e soirée bénéfice chic de la Fondation des Petits Rois. Francine Chalut, membre du CA de l'Association des personnes avec une déficience de l'audition. Je vais m'entretenir avec elle aujourd'hui. Les dossiers numériques en clinique, oui, c'est très bon pour la santé. Et puis une survivante colombienne de mine antipersonnelle en visite au Canada. Et enfin, on les appelle les filles puzzle. Moi, adolescente et autiste, un documentaire qu'on peut encore voir. Il a été présenté à Télé-Québec, mais on peut encore le voir et je vous le recommande fortement. Alors, la coalition Avenir Québec et la Fédération de l'âge d'or du Québec réclament une révision de la politique alimentaire dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, autrement dit les CHSLD. En conférence de presse à Québec dimanche, le député de Lévis, François Paradis, a dénoncé que le budget alloué à l'achat de denrées alimentaires se chiffre en moyenne à 2,14 $ par repas, soulignant que ce montant dégringole jusqu'à 1,35 $ dans certains établissements. J'aimerais que mardi, au terme de l'annonce du ministre dans la mise à jour économique, les aînés du Québec puissent se dire demain soir, je vais avoir un repas varié, nutritif, équilibré pour ma santé, mais aussi pour mon plaisir, a soutenu M. Paradis. En entrevue à la presse canadienne, le député a également soulevé l'enjeu du temps alloué au repas dans les CHSLD. Il a déclaré « Je mets au défi qui que ce soit d'avaler son repas ce soir en 6 minutes. Il faut réviser la présence des employés lors des repas. » Si vous voyez certaines des choses qui circulent en ce moment, on parle de viande hachée avec du brocoli bouilli, dénonce la responsable aux affaires publiques de la FADOC, Mme Caroline Bouchard. Déjà, ces gens sont déprimés, isolés. Ils ne partagent plus le lit de leur conjoint avec qui ils ont passé parfois les 45 dernières années, souligne-t-elle. Alors si en plus on vous fournit de la nourriture qui n'a pas l'air appétissante, qui n'est pas mangeable, on ne peut pas se surprendre de la dénutrition en CHSLD. Dépistage de la trisomie. Et s'il y avait 90% de moins d'amniosynthèse, ça coûte moins cher parfois d'en faire plus que d'en faire moins. En elle-même, la phrase peut sembler complètement absurde, mais il arrive qu'elle soit vraie. C'est essentiellement ce qu'a trouvé un chercheur de l'Université Laval. Il s'appelle François Rousseau et il a produit une étude qu'il a dévoilée dans un congrès de génétique à Vancouver. Il dit « Si on ajoutait un test génétique supplémentaire dans notre protocole de suivi des grossesses à risque de trisomie, on pourrait réduire de 90% le nombre d'amniosynthèses effectuées et l'on diminuerait d'autant les complications qui y viennent avec cette procédure assez invasive. » On rappelle ici qu'on parle de ponction de liquide amniotique. Le détail est dans un papier à paraître sur le site du Soleil pour ceux et celles que ça intéresse. Et en ce qui concerne ce blog en tant que tel, j'aimerais juste, dit le journaliste, en faire ressortir un aspect parce que ces résultats sont une belle illustration du genre de trade-off, comme on dit dans les cocktails dînatoires de l'Académie française, qui sont parfois, souvent, faits en médecine. On échange un risque contre un autre, jugé moindre ou plus acceptable. Dans ce cas-ci, on a d'un côté un test fiable à 100% mais qui nécessite une amniosynthèse, et celle-ci vient avec un risque de fausse couche de 0,5% dans les 8 à 10 jours suivants. On peut éviter la plupart de ces interventions invasives en faisant un test génétique auparavant pour confirmer le risque de trisomie. Mais le test comporte une part d'erreur de 0,5 à 1%. Donc, il se peut qu'il laisse passer, entre guillemets, bien évidemment, des bébés trisomiques. Alors, comme le dit M. Rousseau, il y a un risque de perdre un fœtus normal quand on fait une amniosynthèse. Alors, on compare un risque par rapport à un autre. On ne veut pas exposer des femmes à un test invasif dont le risque que ça tourne mal, même s'il n'y a pas de trisomie, est plus grand ou à peu près égal au risque qu'on se soit trompé. C'est un peu comme ça que malheureusement on réfléchit. Elle s'appelle Audrey Barbeau. C'est une jeune femme française d'origine et c'est une grande voyageuse. Bon, particularité, on va le dire tout de suite. D'abord, bonjour Audrey.
Bonjour.
Vous êtes en fauteuil roulant.
Oui, tout à fait.
Et un peu moins à la maison, je crois. Vous êtes capable à la maison de vous déplacer un petit peu. C'est peut-être ce qui rend vos voyages un peu plus faisables, ou est-ce que je me trompe ou j'ai lu ça quelque part?
Non, c'est bien, c'est correct.
D'accord. Oui. Alors, on ne parlera pas de courage, parce que vous détestez ce mot-là et que vous dites non, ça ne me prend pas du courage, ça me prend juste de l'envie, finalement.
Ouais.
Vous avez envie de voyager et vous le faites. Et il n'y a rien qui vous arrête.
C'est un peu ça. En tout cas, j'essaie vraiment de c'est ce que j'essaie vraiment de faire. Oui.
Toute seule?
Le plus souvent, oui.
Jamais de peur? Et là, je ne parle pas de votre handicap,
parce que
je parle simplement du fait, et combien de fois on a entendu, moi je sais que mes parents, quand je leur disais que j'allais voyager toute seule, c'était « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Vous comprenez bien, belle, jeune et jolie comme on est. Non, mais sérieusement, Audrey?
Jamais, je dirais non. Mais il y a quelques fois, oui, il y a eu des craintes, des moments où j'étais peut-être pas très à l'aise ou ce genre de choses, mais vraiment une peur qui paralyse et non.
Non. Est-ce qu'on peut parler de votre handicap? De quoi souffrez-vous exactement? Je sais qu'il ne faut pas dire souffrez-vous. Ici, en France, on le dit, mais ici, il paraît que ça ne se dit pas du tout et j'ai beaucoup, 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 beaucoup de mal à m'enlever ce mot-là. Alors, quel est le type de handicap
Alors,
que
en fait,
vous avez?
J'ai une maladie génétique qui s'appelle Charcot-Marie-Tooth et qui fait que les muscles s'atrophient.
Ok.
Donc c'est pour ça que je marche un petit peu pour des courtes distances, comme vous l'expliquiez tout
D'accord.
à l'heure, mais qu'après j'ai un fauteuil électrique
D'accord.
à l'extérieur.
Est-ce que ça empire? Est-ce que c'est progressif?
C'est évolutif.
C'est
ouais.
évolutif.
Mais on peut pas. C'est vraiment du cas par cas, donc on peut pas le prédire. Qu'est-ce qui va arriver ou pas?
Ok.
Mystère.
Bon. Comment vous vivez avec ça?
Plutôt bien.
Le fait de pas savoir.
J'essaie de pas trop m'en faire. Enfin, c'est comme
moi
ça.
Moi non plus, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre, exactement. Alors, je précise que vous avez une remarquable énergie. Vous êtes très belle. Vous avez une
gentil.
Très, très belle... Non, mais c'est vrai. Vous avez une remarquable énergie. Alors, je voudrais qu'on parle de ces voyages.
Oui.
Ça faisait longtemps que vous aviez envie de voyager comme ça. Ou ça vous est venu comme ça, tout d'un coup. Vous avez eu envie de voir du pays.
Alors, ni l'un ni l'autre, je pense que j'ai toujours été assez curieuse de vous. Et j'avais l'envie de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Mais le point de départ, en fait, c'est un peu cliché, mais ça a été une rupture amoureuse. Où
okay.
j'avais besoin de prendre l'air. Et je me suis partie, en fait. C'est parti
okay.
de là.
D'accord.
Et le fait de me retrouver ailleurs, dans un nouveau pays, enfin, de plus avoir de repères,
ouais.
J'ai vraiment aimé ça. Et c'est ça, en fait, qui a été le point de départ. Je
C'était
okay,
où
C'était à Londres.
À Londres.
À Londres et à Brighton aussi, sur la
côte.
Et ouais. Vraiment, j'ai adoré ça. Je me dis, ben, je veux continuer. Quoi.
Et vous l'avez fait.
Et je l'ai fait.
Je sais que vous vous êtes déjà, à un moment donné, exprimé. C'était par téléphone. Vous étiez en Thaïlande, je crois, avec Luc Fortin, qui était animateur ici. C'est bien ça, hein?
Oui, 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 tout à fait. Et c'était... C'était assez drôle parce qu'en fait, il y a un grand décalage horaire, en fait. Donc moi, c'était au milieu de la nuit pour moi. Et on a bien discuté avec Luc, oui. C'était très sympa.
Est-ce que c'était... Vous n'avez rien à prouver, si ce n'est à vous-même. Mais vous ne faites pas ça pour prouver quoi que ce soit.
Non.
Ou est-ce que quand même, il y a... OK, regardez, je suis en fauteuil roulant, mais je peux voyager.
Alors, ce n'est pas forcément pour... comment ? C'est-à-dire moi.
Ouais. Oui, oui.
Mais en tout cas, le... Montrer en tout cas que c'est possible.
C'est possible.
C'est ça.
Bien sûr. Alors, les plus beaux souvenirs, allez. Le plus beau comme ça. Patin. Oh,
le plus beau, c'est impossible.
Impossible. Bon.
Impossible. Mais en tout cas, en fait, les plus beaux souvenirs sont souvent liés à des rencontres que j'ai pu faire.
Oui.
Que ce soit en Thaïlande avec un grand-père chez qui j'ai logé, que j'ai absolument adoré, ou bien aux États-Unis, même ici. Enfin, peu importe, en général, les plus beaux souvenirs sont toujours liés à une rencontre.
L'accessibilité, on est obligé d'en parler parce que, bon, d'ailleurs, vous le mesurez ici même au Québec, c'est pas toujours évident.
Non.
Est-ce que vous vous êtes heurté, j'imagine que oui, quand même, à des difficultés par rapport à ça?
Oui. souvent, enfin, je veux dire, à chaque voyage en général, enfin, c'est rare qu'il n'y ait pas un seul couac au niveau de l'accessibilité. Mm-hmm. Après, si je prends par exemple l'exemple du voyage que j'ai effectué l'hiver dernier en Asie,
oui.
Donc j'ai voyagé donc en Thaïlande, au Vietnam et à Hong Kong. C'est vrai que c'est les 3 mois que j'ai passé là-bas, je les ai vraiment vus en fait aussi comme un défi de dire bon ok, ça va clairement pas être accessible et pratique pour moi avec mon fauteuil, mais j'ai envie d'y aller et j'ai envie de voir comment ça se passe, comment je vais justement pouvoir me débrouiller sur place pour pouvoir voyager là-bas.
Mmh. Vos parents, est-ce qu'ils sont inquiets ?
Ils sont inquiets. Mais je communique avec eux.
Parce que vous avez un blog, hein?
J'ai un blog, oui.
Faut qu'on en parle de ce blog. Roulette et sac à dos, c'est génial. Quel beau titre, bravo Audrey. Alors j'imagine que grâce à ça, ben, du coup, vous communiquez tout ça, et puis ils doivent... Mais après tout, pourquoi ils seraient plus inquiets? Parce que vous êtes en fauteuil roulant, je pense qu'il n'y a pas plus d'inquiétude.
Il faudrait leur poser la question, mais en tout cas, je pense qu'ils sont inquiets comme tous
les parents. D'accord, donnez-moi leur numéro de téléphone, on va les appeler tout de suite. Et le Canada? Et le Québec, plus précisément, vous êtes, oui. C'est votre premier séjour ici ?
C'est le deuxième.
C'est le deuxième ?
Oui.
Ok.
Je suis déjà venue une première fois, en fait, avec une équipe de Kéroul au mois de juillet.
D'accord.
Et 3 semaines après, je revenais. Donc, ce n'était pas prévu, mais non, ça me
Alors,
fait bien
Alors, vous aimez
ici.
Ça ?
Oui.
Et là, vous allez rester un petit peu ? Vous posez les valises ou vous repartez ?
Et je repars dans pas longtemps, là.
C'est vrai ?
C'est un peu la fin du séjour, je suis un peu triste.
Oh. Alors,
mais je vais revenir.
C'est vrai ?
Oui.
Bon. Et vous prévoyez un autre voyage ?
Et peut-être de revenir.
Vous savez que je connais une fille qui a fait ça à un moment donné, il y a 30 ans. Elle a dit, tiens, j'irai bien voir là-bas comment ça se passe. Puis elle n'est jamais repartie. Vous l'avez en face de vous. Oui. Alors, vous savez, ça vous pend peut-être au nez. Audrey Barbeau, je voudrais qu'on rappelle le titre de votre blog, parce qu'il est vraiment sympathique avec photos et tout ça. Hein. Ça s'appelle Roulette et sac à dos. Si vous voulez suivre les voyages, les périples, toutes les péripéties d'Audrey, eh bien, allez voir ce site-là, il est tout à fait charmant. Ben, à votre image, Audrey. C'est une belle rencontre et je suis ravie. C'est un peu court, mais on aurait aimé pouvoir parler de pays et d'exotisme et tout ça, mais
je reviendrai.
J'ai beaucoup de sujets d'actualité.
Allez-y.
Alors, je vous remercie infiniment
merci
d'être venue.
Beaucoup.
Audrey Barbeau, merci. Les paractualités régionales maintenant, afin de faciliter la vie des proches aidants, 8 organismes prônant l'autonomie dans les déplacements se sont rassemblés, question de faire connaître leur offre de services. Cette journée d'information s'est tenue à Coaticook et a piqué la curiosité d'une quarantaine de personnes, dont 10 proches aidants. Les gens qui y ont participé, je les appelle nos alliés de l'autonomie, image la responsable de l'activité, Lucie Lheureux. Les gens qui ont malheureusement de la difficulté à se déplacer n'ont pas nécessairement le temps ni l'énergie afin de rencontrer tous les organismes qui peuvent leur venir en aide. Alors, nous avons décidé de nous regrouper tous ensemble pour leur donner l'information la plus complète. Sur place, les gens ont pu prendre connaissance des services d'accompagnement du Centre d'action bénévole de la MRC de Coaticook, qui était d'ailleurs l'organisateur du rendez-vous, des ateliers sur l'ergothérapie, ainsi que des règles de sécurité entourant l'utilisation d'un quadriporteur, ont été dispensés aux curieux. Président de la compagnie Collid Works, Philippe Oligny a fait découvrir le tricycle Cartus. Ça, c'est une idée qui vient d'un neurologue qui s'appelle Marc Terrien, qui faisait des marathons. Il a voulu partager sa passion de la course. Eh bien, grâce à un partenariat avec l'Université de Sherbrooke, ils ont créé ce fauteuil roulant. Ils permettent aux gens d'amener des personnes qui l'aident dans leurs activités physique. Voilà. Les différents ateliers ont été bien sûr bénéfiques hein, pour les participants, mais ils l'ont été également pour les organismes qui y ont pris part. On sent l'entraide et le partage d'informations, souligne la copropriétaire d'Elevaction, Lynn Parent. Par exemple, j'ai pris contact avec les Chevaliers de Colomb. Ils ont souvent des demandes pour une plateforme élévatrice et moi, j'en ai quelques-unes de surplus. Ce sont des dons que les gens font. Il est important qu'on puisse se parler. L'important, c'est d'aider les gens. La 15e soirée bénéfice chic de la Fondation des Petits Rois. C'était dans le Huffington Post de Québec. La 15e soirée bénéfice de la Fondation Les Petits Rois s'est déroulée le 19 octobre à la maison Ogilvy. Le photographe était là pour immortaliser des moments hauts en couleur, notamment avec Michel Rivard, Gardy Fury, Michael, Geneviève Borne, Jean-Philippe Vautier, qui était présent à ce rendez-vous annuel pour la bonne cause. Une récolte procure chaque jour aide et accompagnement à plus de 400 jeunes de 4 à 21 ans atteints de déficience intellectuelle modérée à sévère. Depuis 2002, cet incontournable rendez-vous automnal a permis de recueillir plus $1 million grâce à la collaboration de centaines d'artistes et de gens de la communauté des affaires au profit des jeunes ayant une déficience intellectuelle modérée à sévère des écoles Saint-Pierre-Apôtre et Irène Lucier, des projets de nutrition, de sortie, d'activités de socialisation, d'ergothérapie et de zoothérapie, de même que du soutien à leur participation aux défis sportifs et au développement de nouveaux programmes de travail pour les jeunes de plus de 21 ans. Je voudrais aujourd'hui qu'on fasse connaissance avec Francine Chalut. Bonjour, Madame Chalut.
Bonjour, Madame.
Madame Chalut, vous êtes membre du CA de l'Association des personnes avec une déficience de l'audition. Vous êtes située à Québec. Oui. On appelle cela l'APDA, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Pourriez-vous... Oui?
C'est l'Association des personnes avec une déficience de l'audition.
C'est ça, hein? Et vous êtes bien située à Québec.
Oui.
Quelle est la mission de l'APDA, Madame Chalut?
La mission, c'est de favoriser l'inclusion sociale des gens qui vivent avec une déficience de l'audition et la maladie de Meniere.
OK.
On leur offre des services d'aide, d'entraide, de défense de droits. On essaie de sensibiliser et conscientiser la population aux besoins de ces personnes-là.
D'après vous, ça représente combien de personnes actuellement? Il y a combien de personnes qui profitent de vos services?
Présentement, on a environ 160 membres.
Ah oui, hein? De la ville de Québec, hein?
De la ville de Québec, ça peut être de la région.
D'accord.
Aussi, ça couvre assez loin, là.
D'accord. Et quels sont les services offerts par l'APDA?
Bien, qu'est-ce que c'est comme on dit tantôt, la relation d'aide.
Oui.
On a développé davantage l'autonomie de nos membres. Il y a un service d'accompagnement aussi pour les rendez-vous médicaux.
Oui.
Et puis, on offre aussi des services aussi pour les personnes qui ont la maladie de Meniere. Je sais que s'ils nous appellent, il y a quelqu'un qui peut leur téléphoner, c'est Nancy Porter, elle peut leur téléphoner et puis elle prend rendez-vous avec eux autres.
Madame Chalut, il serait peut-être bon de nous rappeler qu'est-ce que la maladie de Meniere?
La maladie de Meniere, c'est une maladie qui touche l'oreille, mais les gens viennent avec beaucoup de vertiges.
Ah, c'est ça. Ouais.
Et puis, parfois leur audition est atteinte, parfois elle n'est pas atteinte.
Mm-hmm.
Mais c'est vraiment des vertiges très importants, là. C'est une maladie qui est très...
Invasive.
Invasive, c'est ça.
Ah, c'est ça. Et quand vous parlez d'aide à l'autonomie, ça consiste en quoi pour des personnes qui ont une déficience de l'audition?
Bien, c'est-à-dire que c'est comme on dit tantôt, on les dirige vers un soutien complémentaire. Ensuite, l'aide à l'autonomie, bien, on fait des activités pour leur briser l'isolement.
Ah, OK.
Et puis, il y a beaucoup d'activités. Ensuite, bien, comme il y a défense de droit, comme on a aidé beaucoup pour le chien guide. Là,
oui, oui.
En défense de l'audition, la PDA a aidé beaucoup M. Larosville pour ça.
Mm-hmm.
Et puis, après ça, on les dirige souvent vers les audioprothésistes, les spécialistes, quand ils nous le demandent. T'sais, souvent, les gens nous appellent, puis ils sont en désarroi, ils ne savent pas trop où s'en aller. Et nous, on les redirige des fois vers ces personnes-là.
J'imagine, Madame Chalut, pardon, que si vous vouliez nous parler aussi, c'est que vous avez des activités peut-être à nous proposer pour les semaines à venir.
Oui, les activités, je sais qu'il va y avoir le 15 novembre prochain, à 10h30, une conférence qui est offerte par le Centre d'assistance en accompagnement aux plaintes de la capitale nationale. Ça, c'est pour savoir comment faire des plaintes pour le côté médical.
Oui, oui.
OK, c'est pour les places qui ne sont pas adaptées pour les personnes qui sont handicapées, entre autres.
Ah.
Et puis...
Vous voulez dire que ce n'est pas accessible?
Oui, c'est ça. C'est pour faire... Si, mettons, un bon endroit, ce n'est pas accessible, on va apprendre comment faire une plainte.
Ah, OK, je comprends. D'accord, mais l'endroit de la conférence sera accessible, j'imagine.
L'endroit de la conférence, ben, c'est ici, nous autres, c'est... au 72-60 boulevard Cloutier.
D'accord.
À Québec.
Si on veut des informations, Madame Chalut, il suffit d'aller sur votre site Internet, j'imagine?
On peut... sur le site Internet n'est pas vraiment disponible ces temps-ci.
OK.
Mais on peut téléphoner au 418-623-5080.
Bon, alors ce qu'on va faire, Madame Chalut, c'est qu'on va mettre ce numéro-là bien en évidence sur le site de la radio Canal M. Comme ça, les gens qui nous écoutent en ce moment et qui voudraient en savoir plus, ils sauront comment vous joindre. D'accord?
Oui. Est-ce que j'ai le temps de dire qu'il y a une deuxième conférence aussi qui va avoir lieu?
Bien sûr, mais prenez le temps, Madame Chalut, allez-y.
Qu'il y a une deuxième conférence qui va avoir lieu le 30 novembre de 19h à 21h. C'est une audiologiste, ça s'appelle Claudia Côté.
Oui.
Et puis le sujet, c'est mieux comprendre les acouphènes.
Ah!
Parce que ça aussi, ça fait partie de la réalité des personnes qui sont qui ont des problèmes auditifs. On a souvent des acouphènes.
Ah là là, oui. Et nous qui avons nos oreilles, on ne se rend pas compte de ça. C'est que ce n'est pas seulement d'avoir une difficulté d'audition, c'est ça. C'est que ça vient avec toutes sortes de bruits, ça.
Et puis, je ne sais pas si on peut dire les autres activités qu'on fait. Nous autres, on fait beaucoup. Il y a l'activité de la lecture labiale le lundi soir.
D'accord.
Après ça, il y a un club de communication le mardi après-midi. Il y a la vie active, ça, pour faire bouger les gens. Voyez-vous, c'est ça, on essaie de leur faire...
Fantastique.
On essaie de briser les isolements, ouais. Là.
Oui, oui, bien sûr.
C'est le mercredi matin. Et puis après ça, ben, on a aussi un magazine qui paraît trois fois par année.
D'accord. Eh bien, écoutez, je suis très, très heureuse au nom de tous les auditeurs et de l'équipe de Canal M d'avoir fait votre connaissance, Madame Chalut.
Moi aussi.
Je vous souhaite une belle journée.
Vous pareillement.
Et on se reparlera.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Actualité nationale maintenant, l'utilisation croissante des dossiers de santé électronique et interopérable, ça s'appelle, là je vais utiliser vraiment l'acronyme, c'est le DSEI, qui est utilisé par les médecins, les infirmières, les pharmaciens et autres professionnels de la santé au Canada, procure toutes sortes d'avantages aux patients et aux cliniciens, notamment des soins de meilleure santé. En fait, de quoi parle-t-on là? On parle simplement d'informations numériques plutôt que des dossiers papier comme nous avons connu très, très souvent dans nos cliniques et dans nos hôpitaux. Alors, les études confirment que le système numérique de DSEI, mis en place par les provinces, les territoires et leurs nombreux partenaires au cours des 15 dernières années, bonifie les soins de santé aux patients et facilite le travail des professionnels de la santé, comme nous l'avions d'ailleurs prévu au départ, explique Michael Green, le président et chef de la direction d'InfoRoute Santé du Canada. Un peu plus de 90 000 professionnels de la santé du Canada se servaient activement au moins de deux composantes d'un DSEI en accédant par exemple à des images diagnostiques ou à de l'information sur les médicaments provenant de l'extérieur de leur organisation. Eh bien, un an plus tard, cette proportion s'est accrue de 50 %, ce qui porte maintenant ce nombre à environ 139 000 professionnels de la santé. Et plus de 250 000 cliniciens de partout au Canada utilisent au moins une composante d'un DSEI. Les utilisateurs de ce DSEI observent une amélioration de la qualité des soins et de l'accessibilité de l'information sur les patients. Voici, j'ai sous les yeux maintenant un communiqué de Handicap International qui nous dit ceci. Une survivante colombienne de mine antipersonnelle est en visite au Canada. Dans la suite de l'accord de paix historique entre le gouvernement colombien et les forces armées révolutionnaires de Colombie, le FARC, Handicap International invite le Canada et la communauté internationale à ne pas faiblir face aux enjeux de dépollution et d'assistance aux victimes qui s'imposent au pays. Selon l'Observatoire des mines, la Colombie est le deuxième pays au monde en termes de nombre de victimes de mines, juste derrière l'Afghanistan. Alors, il va y avoir donc cette visite, Madame Luz Dari Landazuri Segura, qui est une survivante d'accident de mine, une maman de 4 enfants. Luz a bénéficié de l'appui de Handicap International à travers un projet de 4 ans, financé par Affaires mondiales Canada, à hauteur de 2,8 millions de dollars. Elle sera accompagnée de Madame Reyes, coordonnatrice des opérations de l'organisation en Colombie. Et parmi leurs rencontres à Ottawa, les deux femmes seront reçues par Madame la ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau, afin d'échanger sur la situation des survivants et notamment des femmes dans ce pays. C'est un documentaire à ne pas manquer. Les filles Puzzle. Ça a été présenté sur Télé-Québec et c'est encore disponible, ce documentaire-là. Ça s'appelle « Moi, adolescente et autiste. Comment puis-je être humaine alors que ma propre espèce ne m'accepte pas ?» Le cri ouvre crûment. « Moi, adolescente et autiste », poignant documentaire anglais tourné dans le pensionnat pour filles autistes de Limpsfield Grange. Enseigné ici, c'est plongé dans une guerre psychologique où chaque fille est un casse-tête. On dénombrait jusqu'à tout récemment 15 garçons souffrant d'autisme pour une seule fille. Mais le trouble serait sous-diagnostiqué chez les filles qui parviendraient mieux à cacher leurs symptômes. C'est le cas de Beth, par exemple, 14 ans, Asperger, qui souffre aussi d'un trouble de l'évitement pathologique des demandes. Elle a été hospitalisée après une tentative de suicide et elle est arrivée dans ce pensionnat. Comme nous dit-on d'ailleurs à un moment donné dans ce documentaire-là, un espèce de contenu toujours plein que tout peut faire déborder. J'ai regardé ce documentaire-là qui est absolument fascinant et passionnant. Je ne vous donnerai pas ici... la façon de le retrouver, évidemment, c'est par Télé-Québec, moi, adolescente et autiste, mais on va vous mettre encore une fois toutes les informations sur le site de Canalem, canalem.vusezvoix.com, sous la rubrique, bien sûr, les par actualité. Voilà ce qui conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à mes camarades Jean-Sébastien Laliberté et Anne-Laure Janson de m'aider dans la préparation de cette émission quotidienne, enfin du lundi au jeudi sur Canalem. C'était Clotilde Say qui vous souhaite une bonne journée, qui vous dit demain 11h30.